Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Nous voulons réfléchir aujourd'hui sur les questions des soins palliatifs qui agitent beaucoup les débats depuis longtemps. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons invité à Canal Académie Godefroy Hirsch. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci Damien Leguet.
Godefroy Hirsch, vous êtes médecin, vous avez été médecin généraliste pendant 10 ans, vous êtes responsable toujours de l'équipe d'appui des soins palliatifs du Loir-et-Cher. Et vous avez été pendant 2 ans, de 2007 à 2009, président donc de la SFAP, qui est la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, qui est une société savante, qui est la seule qui existe sur ces questions-là, et qui rassemble à la fois 5000 soignants, et puis au travers des 200 associations que vous fédérez, 25 000 bénévoles. Et on peut dire donc que vous êtes à la fois praticien et expert. Et c'est à ce titre-là que vous êtes intervenu le 9 septembre 2008 lors de la seconde commission Leonetti, donc, qui a été chargée d'évaluer la loi Leonetti, nous reviendrons sur cette loi-là, pour donner votre sentiment et voir ce qu'on pouvait d'une façon ou d'une autre arranger, aménager. Voilà. Donc le problème des soins palliatifs aujourd'hui, donc, qui effectivement est toujours un sujet d'actualité parce qu'il revient tout le temps et que tout le monde se demande comment, d'une manière ou d'une autre, cette question se pose pour soi, pour son entourage, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment y accéder, etc. Donc ce problème des soins palliatifs est dans un contexte qui est, disons, un peu difficile. Il y a deux contextes qu'il faut toujours prendre en considération. Le premier, c'est l'idéal donc, de la mort inconsciente. Donc nous sommes dans des sociétés où nous considérons que la mort doit intervenir presque à notre insu, ne pas se rendre compte que la mort intervient dans son sommeil. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le refus constant de nos sociétés, des individus, de la souffrance physique. Alors, le problème des soins palliatifs, c'est que d'une certaine façon, ces soins palliatifs viennent quoi ? Remettre en cause, ébranler, perturber ces deux demandes qui sont fortes. Accompagner la fin de vie, n'est-ce pas d'une façon ou d'une autre vivre sa mort ? Donc, vivre ces derniers instants que, d'une certaine façon, nous ne voulons pas, par ailleurs, vivre. Ça, c'est le premier versant de la question. Le deuxième versant de la question, c'est accompagner, n'est-ce pas exposer, d'une façon ou d'une autre, l'individu à plus de souffrance, prolonger la souffrance de l'individu. D'où une solution qui est toujours là, présente, qui revient dans le débat, qui semble à la fois simple et radicale, la solution donc de l'euthanasie. Et on peut considérer que dans l'opinion, l'euthanasie voulant dire étymologiquement la bonne mort, l'euthanasie est la réponse la plus simple, la solution la plus facile. Alors je voudrais avec vous qu'on essaye d'explorer, non pas la question de l'euthanasie, mais la question des soins palliatifs, considérant à la fois votre expérience, à la fois le rôle de président que vous avez eu, donc la vision large qui est effectivement la vôtre, pour mieux appréhender cela d'une façon très simple, très pédagogique. Et puis, je voudrais, dans un deuxième temps, que nous regardions de près cette fameuse loi Leonetti dont on parle, qu'on connaît pas, qu'on connaît mal, qu'on évalue, mais qu'on évalue peut-être sans bien même savoir si elle a vraiment été appliquée. Donc, je voudrais commencer avec vous, première partie, sur, disons, cette question générale des soins palliatifs, en partant de cette phrase donc, d'une des fondatrices des soins palliatifs, à savoir Cecily Saunders, qui disait « Il y a tant de choses à faire quand il n'y a plus rien à faire ». Alors, ma première question, elle est simple. Qu'est-ce que la fin de vie ? À partir de quand est-ce que cette fin de vie, d'une façon ou d'une autre, existe ? Et pourquoi faudrait-il l'accompagner ?
À cette question, il est déjà difficile de répondre de manière très nette et très claire. Car il y a derrière cette question autour de qu'est-ce que la fin de vie, beaucoup de représentations personnelles, de croyances, de convictions, il y a aussi beaucoup de représentations sociales. Quand commence la fin de vie ? C'est très très difficile d'y répondre. On pourrait en effet répondre par une boutade, de dire que la fin de vie commence au début de la vie. En tout cas, qu'est-ce que l'on peut dire ? c'est que quand une personne est atteinte d'une maladie grave, quand elle est menacée dans sa vie par la maladie grave ou par un ensemble de maladies, un certain nombre de problématiques arrivent et qu'il est sûrement très important à ce moment-là que tous, les soignants, mais aussi les bénévoles, viennent se porter auprès de la personne, auprès de ses besoins, auprès de ses difficultés. Et c'est ça, les soins palliatifs. C'est d'abord de dire, premièrement, les soins palliatifs, c'est donne des repères par rapport à ça. Le premier repère, c'est une personne, même malade, même au bout de sa vie, est une personne vivante, totalement vivante. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les soins palliatifs vont, en termes de repérage, nous donner plusieurs idées. D'abord, il est fondamental de calmer, d'apaiser la souffrance physique, la douleur. C'est quelque chose qui est un des premiers socles du soin palliatif.
Si on peut juste faire une parenthèse sur cette question de la souffrance. Donc, on entend dire souvent que les soins palliatifs, plutôt que d'apaiser la souffrance, pour maintenir comme ça les gens jusqu'au bout, ou peut-être plus au bout que le bout naturel, entretiennent d'une façon ou d'une autre la souffrance.
Mais la visée des soins palliatifs n'est pas une visée de maintenir jusqu'au bout. La visée des soins palliatifs, elle est de prendre soin de l'autre, d'accompagner l'autre jusqu'au bout. Elle n'est pas dans justement maintenir, s'acharner à quelque chose, pas du tout. Elle est de prendre en charge de manière le plus ajustée possible les besoins de la personne. Et souvent, le premier des besoins, notamment quand la maladie grave est là, je pense par exemple au cancer, mais à plein d'autres maladies, est la problématique de la douleur. Une autre problématique importante est la problématique de la souffrance ou de l'inconfort psychique relationnel. Et nous avons à être aussi attentifs à cette dimension-là de la personne. De même, dans leur définition, les soins palliatifs intègrent le fait qu'il faut soutenir les proches, parce que être auprès d'une personne malade, c'est difficile, ça nécessite beaucoup de temps et de disponibilité, et on a besoin de beaucoup d'aide. Donc, les soins palliatifs, ils vont se mettre à l'écoute dans une analyse à la fois des besoins physiques, psychologiques, relationnels, à l'écoute de la personne et essayer de proposer des solutions ou des éléments de réponse face à ces différentes problématiques.
Mais soyons concrets, ça veut dire qu'on est dans du psychologique, dans du médical, dans de l'écoute,
on est dans de l'humain. On est dans de l'humain et une personne, un être humain, c'est aussi ça, c'est aussi cet ensemble, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un corps qui peut être menacé, douloureux, mais c'est quelqu'un qui aussi s'inscrit dans une histoire de vie et comment la maladie, la survenue de la mort pour venir bousculer, refaire ressurgir des problématiques. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans un réseau social, de relations familiales. Et c'est tout ça qui fait l'être humain. Et les soins palliatifs et l'accompagnement, justement, ont comme visée d'être dans une tentative d'approche de la globalité de ce que vit l'autre. De ne pas vouloir segmenter entre ce qui serait tout simplement du corps, d'autre part de l'esprit, mais bien de se mettre à l'écoute de la globalité de ce que vit l'autre, de là où il en est dans ce moment-là, dans cette situation-là, et d'essayer de voir quels pourraient être des éléments de réponse ajustés qui vont donc être très variables d'une personne, d'une situation à une autre. Pour une personne, par exemple, et c'est souvent le premier type d'intervention, ça va être de pouvoir calmer la douleur, calmer les autres inconforts physiques, du champ physique, comme les problèmes respiratoires, digestifs, voire les problèmes d'angoisse. Mais on sait aussi qu'il va falloir être très attentif à toute la dimension psychologique, c'est-à-dire qu'est-ce que vit la personne, comment elle est aussi malmenée par la maladie, qui vient quelque part percuter, même quand on a 90 ans, qui vient percuter là où elle en est. Et donc c'est cette dimension que l'on dit holistique, c'est-à-dire de se mettre à l'approche de la globalité de l'autre qui caractérise les soins palliatifs et l'accompagnement.
Je voudrais qu'on reprenne les trois points que vous avez indiqués. Donc vous avez parlé de la douleur, de la souffrance et puis du soutien des proches. Alors ces questions de la douleur, donc de la douleur physique, c'est au médecin auquel je m'adresse. Peut-on aujourd'hui apaiser complètement, enfin supprimer complètement la douleur ou est-ce qu'elle reste toujours là? Je ne parle que de la douleur physique, la douleur du corps.
Nous avons maintenant de très bons médicaments. Nous avons maintenant une meilleure connaissance de ce qu'est la douleur. Nous avons maintenant un certain nombre de compétences. Nous avons développé des compétences, des techniques qui nous permettent de prendre en charge la plupart des situations de douleur. C'est assez exceptionnel, mais ça peut survenir. C'est assez exceptionnel que l'on n'arrive pas à diminuer la douleur. Parfois, il peut être difficile d'arriver à l'objectif douleur zéro, il faut le reconnaître, mais en règle générale, nous avons les moyens et il faut se les donner. Par contre, ça renvoie à des compétences, c'est-à-dire une formation, une capacité d'analyse de ce qui se passe, de faire des diagnostics précis, étiologiques par exemple, et de proposer les médicaments qui seront adaptés. Dans mon expérience, il est exceptionnel que l'on n'arrive pas, en termes de douleur, à la diminuer de manière très significative pour permettre à la personne d'être dans un confort et une qualité de vie qui soit nettement meilleure. Nous avons beaucoup progressé. Nous avons maintenant, quand j'ai commencé, moi, il y a 20 ans, quand on donnait de la morphine deux fois par jour, c'était extraordinaire. On avait très peu, par exemple, de types de morphine. Maintenant, vous avez des types de morphine, des types de médicaments très différents que vous pouvez administrer avec parfois des dispositifs très pointus, comme l'utilisation, par exemple, de pompes automatiques, même à domicile. Donc ça, nous avons tous, globalement, beaucoup progressé, et c'est bien. Et c'est bien, parce que nous partions de loin. Mais, dans ma pratique de tous les jours, il faut encore aller plus loin, au sens il y a encore trop de personnes qui sont dans l'inconfort autour de la fin de la vie. Et ce message de formation de tous les professionnels de santé à une meilleure prise en charge de la douleur, il est extrêmement primordial. Il faut développer cette formation dans les études initiales, des médecins, des infirmières, pour que ce premier temps indispensable, ce premier pilier, puisse être mis en œuvre, et encore mieux.
Donc vous voulez dire que sur la partie de la douleur, pour se limiter pour l'instant à cela, des protocoles existent, des médicaments, des soins existent, la morphine dont vous parliez. Et donc si existent des situations de vraie douleur dans tel ou tel endroit, sans doute est-ce dû pour partie à un manque de formation de la communauté médicale qui ne sait pas bien, et peut-être un peu en retard, disons, de l'avancée qui est faite sur ces questions-là.
La douleur est un phénomène extrêmement complexe. La douleur est un phénomène complexe qu'il faut du coup bien connaître, bien analyser et remettre dans le contexte de la situation de vie de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, il faut savoir où est-ce qu'il en est de sa maladie, quel type de maladie, quelle est l'atteinte dans son corps. Par exemple, il existe un certain nombre de douleurs, là c'est un peu technique, mais il existe un certain nombre de douleurs qui ne sont pas prises en charge par la morphine ou les dérivés de morphine et pour lesquelles on va faire appel à d'autres types de médicaments, qui sont des médicaments plutôt qui jouent sur le système nerveux, parce que ce sont des douleurs plutôt portées par le système nerveux. Ça nécessite une véritable compétence. Et c'est cette compétence qu'il faut continuer à développer autour des situations de tous les jours, bien entendu, autour de situations plus spécifiques. Il faut pouvoir faire appel à des personnes, des équipes spécialisées de soins palliatifs qui, elles, parce que c'est leur travail de tous les jours, ont une grande habitude de ces situations de douleur compliquées.
Alors, donc ça, c'est le premier point, parce que je voudrais qu'on développe ces trois points. Donc, premier point, effectivement, la question de la douleur. Le deuxième point, c'est celui de la souffrance. Alors, quand on dit souffrance, on ne dit pas douleur, on dit, disons, des douleurs psychologiques ou des douleurs humaines ou des souffrances qui viennent de loin et qui, au moment de la mort ou de la fin imminente, reviennent, réapparaissent. Donc, qu'est-ce que les soins palliatifs font ou peuvent faire sur ces souffrances-là pour les accompagner, parce que les soins palliatifs, comme vous l'avez dit, sont dans l'accompagnement.
La question de la souffrance est une question là aussi compliquée. Globalement, pour expliquer, la douleur, ce serait plutôt avoir mal, la souffrance, ce serait plutôt être mal. Donc ça renvoie à une dimension de l'individu, je dirais là aussi extrêmement globale, comme une personne qui a une histoire de vie, qui a un cheminement là-dedans, et pour lequel La maladie grave, d'abord, avant même la mort, hein, la maladie grave vient totalement percuter, déséquilibrer, voire ébranler d'une manière où parfois les patients ont l'impression d'être totalement morcelés, disloqués dans leur propre intérieur, dans leur capacité à être dans une certaine unité. Le premier des éléments par rapport à cette souffrance de l'autre, alors qui peut des fois être totalement poignante puisqu'on est au cœur même, à l'essence même de la vie, cette première dimension, c'est d'abord d'accueillir l'autre dans sa souffrance, de pouvoir écouter ce qu'il se passe, de pouvoir bien lui faire percevoir que nous nous mettons aussi à l'écoute de cette dimension-là de lui-même qui est en train d'être extrêmement difficile. C'est déjà un premier point. Les réponses, elles peuvent être très variables. Il n'y a pas de réponse toute faite à la souffrance de l'individu. Quelle réponse on peut dire à une mère qui voit que sa fille risque de mourir d'un cancer alors qu'elle, elle a 90 ans, sa fille en a 60 et qui dit « mais c'est pas normal qu'elle, elle meure alors que moi, 90 ans, ce serait mon temps de partir ». Quelle réponse on a ? On n'a pas de réponse toute faite. On sait qu'il est là question d'un questionnement essentiel de la vie, mais notre but, c'est d'aider à ce que l'autre trouve en lui, dans son histoire, dans ses ressources, quelles qu'elles soient, amicales, relationnelles, intérieures, spirituelles au sens de questionnement sur le sens, pas uniquement, bien entendu, au sens du religieux, trouve des ressources pour continuer à faire face. Et une des manières qu'elle trouve des ressources, c'est aussi de lui dire « nous sommes là ». Nous sommes là à côté de vous, nous sommes là aussi dans cette dimension-là, nous sommes là pour la douleur, nous sommes là pour aider vos proches, mais nous sommes là aussi pour être auprès de vous, là où vous en êtes dans la difficulté de votre chemin de vie.
Donc il y a bien dans ce deuxième aspect hein, que nous examinons, donc dans la souffrance que vous définissez par le mal-être, enfin être mal, voilà, est-ce qu'il y a une spécificité du mal-être à ce moment-là ? Est-ce que il y a un effet de récapitulation de tout le mal-être de la vie ou est-ce qu'il y a un mal-être particulier qui serait celui des derniers moments ?
Dans mon expérience, les patients sont confrontés à quelque chose souvent d'extrêmement percutant, d'extrêmement violent. Intérieurement, j'entends. D'abord parce que la mort possible ou la mort qui approche, parce que, évidemment, elle peut être dans plusieurs mois, voire même plusieurs années, c'est une épreuve dans la vie. Nous vivons sur une modalité où la mort nous apparaît quand même relativement lointaine, et heureusement, ce n'est pas notre pensée de tous les jours, mais quand elle vient être là comme un possible, c'est souvent un véritable bouleversement. Moi, je trouve que souvent les patients sont extrêmement bouleversés, écartelés par déjà cette première confrontation à la finitude possible. Et toutes les positions qu'on peut avoir prises quand on est bien portant, sur moi, quand je serai comme si, elles ne tiennent pas face au séisme que représente la maladie déjà. L'annonce d'un cancer, par exemple, c'est un séisme intérieur incroyable. Et encore plus lorsque, par exemple, on annonce qu'il n'y a plus de traitement possible, ou encore plus lorsqu'on annonce ou lorsque l'on perçoit que ben là, non, on s'achemine vers la fin de sa vie. Et on ne se rend pas bien compte, quand on n'est pas présent auprès des personnes malades, comment ceci vient totalement bousculer, je dirais, ses propres capacités à faire face. Et l'important à ce moment-là est d'essayer de permettre à l'autre de retrouver, des fois de manière parcellaire, en s'inscrivant aussi dans le temps, dans la temporalité, de retrouver des points de repère, des points d'ancrage qui lui permettent de venir dépasser ce séisme pour continuer à sa manière, comme il le peut, de venir habiter ce temps. Et ce temps qui reste, il est parfois long.
Alors, toujours sur ce mal-être, il est de quelle nature ? Familial ? Spirituel ? C'est l'angoisse du dernier moment ? C'est tout ça à la fois qui vous explose à la figure ? Quels sont les deux, trois éléments enfin, qui nous permettent de mieux comprendre la nature de ce mal-être ?
Il peut être tout ça. Il est tout ça. Il peut être tout ça. Il vient parfois plus se focaliser, en effet, sur une partie. Par exemple, dans ma pratique, lorsqu'on est une personne jeune et qu'on a des enfants en bas âge ou des adolescents et qu'on sent qu'on n'échappera pas, qu'on risque de ne pas échapper à la maladie, toute la question autour du futur pour ses proches est une question qui est par exemple souvent tout à fait centrale, qui vient occuper, même si elle est extrêmement difficile par exemple à formuler, à dire, mais elle est souvent extrêmement présente. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Il peut par exemple à ces moments-là être important d'essayer de voir si d'abord d'ouvrir le champ de la parole et de la relation à l'autre autour de ça, parce que c'est très très difficile, c'est pas quelque chose qui est possible à dire quand on est mère à ses enfants. Donc de pouvoir en parler à un tiers, ça permet par exemple de poser un certain nombre d'éléments qui vont faire repère. Vous savez, on est des fois dans des situations extrêmement difficiles, de parents qui sont seuls avec des enfants. Quand ils vont ne plus être là, ça va par exemple être le conjoint avec qui ils sont séparés depuis longtemps, avec par exemple parfois des histoires extrêmement conflictuelles qui va reprendre les enfants. Comment essayer que tout ça fasse sens ? Mais c'est tout ce travail autour du sens qui est un élément extrêmement important autour de l'attention qu'on a aux autres, parce que la souffrance de l'individu dans cette période-là, face à la confrontation de la maladie, face à la mort, elle est souvent en effet extrêmement globale. Et notre attention, elle est de se porter sur qu'est-ce qui fait le plus problème pour la personne à ce moment-là. Et d'essayer avec elle de voir quels peuvent être les éléments de soutien, de repérage, d'appui pour continuer à bâtir et aller de l'avant.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons donc notre entretien juste après. Nous reprenons notre entretien avec Godefroy Hirsch, qui est médecin et qui est spécialiste et praticien donc des soins palliatifs. Et nous avons abordé dans une première partie les deux aspects des soins palliatifs, qui sont d'une part les éléments de la douleur physique, et d'autre part de la souffrance. Et nous en étions restés sur cette question de la souffrance, du mal-être. Moi, ma question, pour prolonger ce que nous disions juste avant, est la suivante. Elle est, qu'est-ce que vous pouvez ajouter ou qu'est-ce que vous pouvez faire face à ce mal-être quand ce mal-être renvoie à des personnes qui ne sont pas vous ? Pour le dire autrement, beaucoup de mal-être ou de souffrance, et vous parliez effectivement du souci des autres, de ceux qui vont rester, de la famille, etc., relève donc de la famille. Alors, est-ce que vous êtes un obstacle à la famille ? Est-ce que la famille est insérée ? Est-ce que vous recevez de la confiance, des confidences, des mots, des paroles qui s'adressent à vous, mais qui finalement s'adressent à vous, peut-être par ricochet, pour aller directement du côté de la famille. Vous voyez, comment est-ce que ce rôle que vous remplissez, c'est un rôle pertinent ou c'est un rôle par défaut, considérant que la vraie parole qui est adressée, elle doit aller, ce mal-être, du côté de la famille ?
Notre rôle, il est à plusieurs niveaux. Par rapport à la famille, il s'inscrit beaucoup dans quelque chose qui est aussi, peut-être que nous essayons de faire lien. Lien dans ce qui est d'abord recherche de sens. Par exemple, dans les soins palliatifs, l'attention à la famille est une autre dimension prioritaire. Parce qu'un individu, quelle que soit son histoire de vie, son histoire familiale, est inséré ou pas d'ailleurs dans une dimension de relation avec des proches. Et il est extrêmement important de porter son attention auprès de tous les proches, que ce soit les aînés ou les enfants, non pas en voulant être, je dirais, des porte-paroles. D'abord, en étant de manière très pragmatique dans des aides, accompagner, je pense à des exemples de tous les jours, accompagner lorsqu'on a 80 ans son mari âgé à domicile, à la campagne, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de soucis, mais c'est beaucoup de travail. Souvent, il est important de pouvoir se faire aider dans des choses les plus banales, les plus simples. Le ménage, ça peut représenter beaucoup, par exemple en termes de linge. C'est des éléments des fois très simples comme ça qui permettent aussi à la personne qui est auprès de la personne malade de pouvoir souffler un peu, de ne pas s'épuiser. Ça peut être trouver des dispositifs de financement pour permettre l'intervention d'aide à domicile. Ça peut être faire appel à des fonds spécifiques. Il existe par exemple des fonds spécifiques au sein de l'assurance maladie pour prendre en charge des dispositifs qui ne sont pas remboursés, prendre en charge des gardes malades à domicile. Donc l'attention à la famille, elle est aussi dans cette dimension très, très quotidienne. Très quotidienne. C'est lourd le quotidien quand on est auprès d'un malade. Elle est bien entendu aussi, comme vous le disiez, dans cette dimension d'être aussi dans la relation avec l'autre. C'est-à-dire de pouvoir aussi entendre là où il en est, à ce jour-là. Et ça peut être très partagé, ambivalent. J'ai envie qu'il reste à la maison, mais c'est trop difficile. Je lui avais promis de rester, mais qu'est-ce que c'est dur. Il y a beaucoup souvent de vécu, d'affect très partagé dans ces moments-là. Il est important de pouvoir écouter ce que dit l'autre, voir ce qui peut faire repère. Par exemple, ça peut être un moment de proposer un temps d'hospitalisation de répit pour pouvoir souffler un peu. Ça peut être faire intervenir une hospitalisation à domicile qui va pouvoir être plus présente, étayée. Donc, se mettre à l'écoute de l'autre, c'est toujours essayer de rechercher quels sont ses besoins dans ce moment-là. Et ils peuvent être de manière très large sur le champ de l'humain, physique, relationnel ou matériel. Quels sont ses besoins et comment on va essayer de pouvoir élaborer des réponses adaptées à ses besoins.
Donc on voit les trois aspects, hein, donc la douleur, la souffrance et puis soutenir les proches. Mais prenons un exemple précis, prenons des situations précises. Vous êtes vivant, en bonne santé et vous entrez dans la chambre d'un malade en fin de vie. Comment ça se passe, vous qui êtes en pleine forme, en pleine santé et qui êtes là et qui serait là sans doute encore dans 15 jours, 3 semaines quand la personne en face de vous n'est plus là, ne sera plus là sans doute. Vous voyez comment ça se passe, cette rencontre-là qui fait que vous êtes dans une démarche d'accompagnement inégalitaire entre un homme vraiment vivant et une personne en face de vous qui est toujours vivante mais sans doute ne l'est plus pour très longtemps.
D'abord, comme vous l'avez dit, c'est une rencontre humaine. C'est toujours une rencontre. Et la première chose de la rencontre, c'est de pouvoir s'asseoir à côté de l'autre, à sa hauteur. Je parle physiquement. Quand quelqu'un est dans un lit, il ne faut pas rester debout. Il faut pouvoir s'asseoir, être au même niveau que lui, se présenter. Essayer tout de suite de voir quelle est sa capacité d'accueil, s'il n'est pas trop fatigué. Par exemple, s'il peut parler. Et puis, le deuxième élément important, c'est que moi, j'y arrive vivant, oui, mais j'y arrive aussi avec une compétence et un rôle. Moi, j'y arrive en tant que médecin. Et là, ce que va souvent me demander l'autre d'abord, c'est d'occuper ce rôle de médecin. Et mon rôle de médecin, par exemple, il va être de pouvoir analyser ce qui se passe. Moi, mon boulot de médecin, c'est de recueillir des signes cliniques, d'évaluer ce qu'il se passe, de pouvoir par exemple derrière voir quelles pourraient être les propositions thérapeutiques. D'abord, je suis là en tant que médecin dans ma compétence et ça peut être important aussi, et c'est une autre dimension des soins palliatifs dont on pourra parler aussi, le côté de l'interdisciplinarité, c'est que ce n'est pas moi le médecin qui va tout porter, mais je vais être accompagné d'une infirmière de l'équipe ou d'une psychologue qui va aussi pouvoir amener sa capacité d'écoute, d'analyse de ce qui se passe et qui va nous permettre ensemble et avec les soignants habituels du patient de pouvoir proposer quelque chose. Mais d'abord, vous savez, quand on rencontre une personne, c'est toujours une aventure. Et moi, je dirais, un des premiers repérages, c'est l'humilité. C'est de dire que, voilà, lui, il en est là. Moi, j'arrive, peut-être bien portant, mais j'arrive avec mes compétences. Je vais d'abord essayer de me mettre dans son écoute, dans son analyse, dans l'analyse de ce que je vois, pour être dans une dimension d'une personne que je vais considérer, mais physiquement, comme une personne à part entière. Et ça, c'est des petites choses. On parlait tout à l'heure de s'asseoir, de respecter le temps, de respecter la parole qui peut être des fois compliquée, de réinstaller la personne, lui dire « mais il me semble que vous n'êtes pas bien installé, vous avez la bouche sèche, est-ce que vous voulez boire un petit peu ?» C'est toutes ces attentions-là qui font que la confiance, qui est un lien extrêmement important entre deux êtres, peut, en règle générale, peut se nouer et qu'à partir de ça, chacun, dans sa place, lui dans sa place de personne malade, avec peut-être sa famille autour, nous dans notre place d'équipe, médecin avec d'autres personnes, vont essayer de se trouver et de voir comment nous pouvons tous continuer à aller de l'avant dans des objectifs qui sont d'abord des objectifs de meilleure qualité de vie, dans des objectifs qui sont d'abord des objectifs de confort, dans des objectifs qui sont d'abord des objectifs de privilégier la relation, parce que globalement, c'est ça aussi qui est important, c'est de pouvoir continuer, même si c'est menu, à pouvoir s'inscrire dans la relation.
Il y a deux termes que vous avez indiqués qui sont importants. Le premier, c'est celui de personne. C'est-à-dire, à partir de quel moment est-ce que vous regardez toujours une personne en face de vous comme une personne ou comme un corps, ou comme un malade, ou comme quelqu'un qui est tellement écrasé par sa souffrance, sa douleur. En quoi est-ce que cette personne est encore une personne, ou à partir de quel moment est-ce que vous avez, voyez, quelque chose qui est perturbé, qui est sur cette relation de personne à personne, mais une personne en face de vous qui effectivement... Voilà, n'est pas dans le meilleur de sa forme, pour le dire simplement.
Mais toute personne, quelle qu'elle soit, est une personne à part entière. Moi, si je suis auprès, dans une maison de retraite, d'un patient âgé atteint de maladie d'Alzheimer, qui est recroquevillé dans son lit, c'est une personne à part entière. C'est une personne en situation de vulnérabilité extrême. C'est une personne qui n'a peut-être pas beaucoup de moyens de communication avec moi ou avec l'entourage, voire aucun, mais c'est une personne à part entière et je vais toujours auprès d'elle ou de lui comme étant une personne totale, globale. Je vais peut-être pas pouvoir explorer tous les champs, par exemple s'il ne parle pas, mais je vais la considérer, je dirais, de principe comme une personne vivante, jusqu'au bout, qui est peut-être, même si par exemple, dans l'exemple qu'on disait, même si elle est par exemple dans un monde que je ne comprends pas, même si elle est dans des pensées, dans des phrases que je ne comprends pas, elle est quand même là, ce moment-là, et moi, je vais simplement essayer de voir qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce que nous pourrons, puisque ce n'est jamais dans une relation solitaire, même si bien entendu, il y a toujours une relation entre deux personnes, qu'est-ce que nous pourrons faire pour essayer qu'en termes de là où elle en est, de son confort, de la manière dont elle peut habiter ce qui reste de vie, elle puisse continuer à le faire le plus complètement possible, même si parfois ce peut être très menu. Mais je crois que c'est un des grands éléments des soins palliatifs et de l'accompagnement. Et c'est en ça où on vient en décalage avec une médecine qui a peut-être considéré l'individu plutôt comme une somme d'organes avec des spécialités ou plutôt comme une somme de maladies. Nous décalons cette vision-là. Nous plaçons d'abord, nous approchons d'abord, nous allons d'abord à la rencontre d'une personne qui est souvent malade, fatiguée, mais c'est d'abord de cette rencontre-là dont il s'agit. Nous utilisons bien entendu tout ce qui est nos compétences du référentiel technoscientifique pour l'aider, par exemple, dans la prise en charge de la douleur. Mais nous nous mettons aussi dans une dimension de la relation, puis aussi dans une dimension du questionnement autour de qu'est-ce qui est le plus adapté à elle. Est-ce que, par exemple, pour l'exemple de tout à l'heure, est-ce que par exemple cette personne âgée démente au fond de son lit dans une maison de retraite, est-ce que par exemple il faut continuer à forcer à la manger, elle refuse de manger, les soignants nous disent mais c'est pas possible, il faut la forcer à manger. C'est par exemple de réfléchir avec eux, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le bénéfice pour cette personne de continuer à manger, quel est le côté négatif ou pouvant entraîner des inconforts. Et c'est toujours aussi, c'est l'autre dimension, de pouvoir être là pour essayer de peser, et là on est toujours mieux quand on est ensemble, qu'est-ce qui a le plus de sens, qu'est-ce qui est le plus adapté, qu'est-ce qui est le plus juste. Et d'une personne à l'autre, c'est extrêmement variable.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire que les soins palliatifs viennent lutter, entre guillemets, contre deux préjugés forts. Le premier préjugé serait celui du corps médical lui-même, qui suppose, et vous l'avez dit, que le malade, c'est quoi ? C'est une somme d'organes. Et que cette vision médicale organique a pris le pas sur le regard humain. Et que donc, il y a un effet de rétropédalage, si on veut, enfin, ou de reconsidération de l'humain auprès du corps médical. Ça, ce sera la première chose. Et la deuxième chose concerne l'idée aujourd'hui que la mort est essentiellement une question médicale. C'est pour ça qu'à 70%, les Français meurent à l'hôpital et non pas chez eux, comme c'était le cas avant. Donc, est-ce que les soins palliatifs ne sont pas, d'une certaine façon, une double révolution, révolution médicale, c'est-à-dire qu'un corps n'est pas un corps, voilà, tant qu'il est vivant, un corps n'est pas un corps, mais une personne, et révolution de l'idée que les Français se font de la mort, que les gens se font de la mort, comme quoi la mort n'est pas une question médicale, biologique seulement, et que donc il faut peut-être aménager pour la partie des soins palliatifs à l'hôpital, quoi, non pas la campagne à la ville, mais un accompagnement, un lieu qui est comme chez soi à l'hôpital.
Par exemple, sur cette dernière, sur votre seconde question, depuis la création des soins palliatifs en France, elle est associée intimement à la dimension de l'accompagnement. Et par exemple, autour d'une personne gravement malade ou en fin de vie, il y a possibilité d'intervention de bénévoles d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est un bénévole d'accompagnement ? C'est simplement quelqu'un qui vient témoigner par sa présence de l'humanité qu'il y a à être auprès de l'autre, même si l'autre est totalement démuni et vulnérable. C'est donc une manière de réinscrire la personne dans le champ de la société, parce qu'une autre personne, les bénévoles d'accompagnement sont des personnes formées, bien entendu, encadrées, mais vient manifester simplement par sa présence le fait que l'autre compte. Et à ce titre-là, oui, c'est vrai, nous défendons le fait que la question de la mort où la question du mourir n'est bien entendu pas qu'une question médicale. C'est d'abord une question qui est posée à la société. Et la première des questions posées à la société, c'est quelles sont les conditions du mourir dans notre société ? Quelle attention globalement notre société accorde aux personnes vulnérables ou aux personnes en fin de vie, ou aussi aux personnes âgées ? Et donc, bien entendu, nous venons dire que la dimension d'approche globale de l'autre, elle dépasse largement le strict miroir de la dimension médicale. C'est pour ça, par exemple, que la Société française de soins palliatifs s'appelle la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Votre première question sur la manière de considérer la personne, est-ce qu'elle ne vient pas bousculer la manière dont pendant un certain temps la médecine l'a considérée ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Historiquement, les soins palliatifs sont survenus à un moment où nous étions plutôt, après de magnifiques progrès de la médecine extraordinaire et que nous louons tous, nous étions dans un moment où il y avait des situations d'énorme fragmentation, des situations d'abandon. Parce que la médecine, si elle n'est pensée que dans une dimension du guérir, si elle n'est pensée que dans cette dimension-là, elle oblitère tout un champ, toute une possibilité qui est non pas la dimension du guérir, mais la dimension du continuer à soigner, même si on ne peut plus guérir. Et c'est vrai que les soins palliatifs sont venus historiquement bousculer la médecine, mais ce que l'on peut dire maintenant, c'est que cette approche-là, elle commence à faire son chemin. Elle commence à faire son chemin. Elle l'a fait beaucoup plus, je dirais, rapidement, notamment parce que ce n'est pas le même type de formation auprès des infirmières, des aides-soignantes, qui ont une dimension, je dirais, d'approche beaucoup plus dans la globalité de la personne malade. Mais les soins palliatifs, et c'est pour ça qu'il faut continuer à développer la formation en soins palliatifs, auprès de chaque professionnel de santé, quel qu'il soit, viennent en effet dire « vous avez une compétence ». Exercez-la, mais n'oubliez pas qu'elle doit se mettre au service d'une personne dans ce qu'elle est à ce moment, dans cette situation-là, et vous ne pouvez pas la réduire à une simple dimension de la maladie ou d'une problématique spécifique.
Ce qui laisserait supposer donc qu'effectivement on retrouverait par là la fonction première de l'hôpital qui est étymologiquement l'hospitalité, l'accueil, hôtel-dieu. Donc il y a bien non pas un corps qui est reçu, mais un corps et une personne qui est reçue comme à l'hôtel. Voilà. Et donc la fonction du corps médical ou des accompagnants est, serait, devrait être celle effectivement d'accueillir la personne, de l'accompagner plutôt que de la traiter, plutôt que de la soigner seulement comme on traite un corps.
Oui, ce que vous dites est totalement vrai. Il faudrait, mais ça dépasse le corps médical, ça renvoie à la question à l'institution et aux différentes institutions. Comment accueillir l'autre lorsqu'il est dans une situation de vulnérabilité? C'est une question même qui est posée à notre entière société. Comment notre société accueille l'autre lorsqu'il est démuni, que ce soit dans le champ social ou bien entendu démuni, mis en difficulté par la maladie? Et c'est vrai qu'il y a une question là fondamentale qui est une question, je dirais, qui se pose presque à tout être humain. Et comment les institutions, notamment les institutions de soins, de santé, et elles changent, elles évoluent, mais comment elles peuvent continuer, ou du moins comment elles peuvent rebouger pour bien sentir que ce n'est pas un malade dans la chambre numéro 13, c'est pas monsieur du 13, c'est monsieur Dubois qui est là, avec sa femme qui ne vient pas le voir et que ça le met en grande souffrance, et que comment on peut élaborer, monsieur Dubois, on a besoin de lui faire des examens, oui, de mettre des traitements, oui, mais comment faire pour accueillir sa difficulté, que son épouse ne vienne pas le voir, parce qu'elle ne peut pas s'y trouver. Voilà. Et cette dimension d'ouverture à la personne, dans ce qu'elle est dans sa globalité, évidemment que c'est une des points de repère essentiels des soins palliatifs, et c'est en ça où nous venons... Nous continuons à bousculer les établissements, nous continuons à bousculer une médecine. Par exemple, actuellement, la valorisation tarifaire se fait beaucoup à l'activité, vous savez, dans les établissements de santé, avec ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Comment on peut déterminer l'activité de l'accueil de cette dame, Madame Dubois, pendant une heure et demie, à côté, pour qu'elle puisse nous dire toute sa difficulté qu'elle a à venir voir son mari malade. Et c'est peut-être cet accueil qui va lui permettre de passer 5 minutes auprès de lui. Il est difficile de faire rentrer cette dimension d'attention globale à la personne dans des petites cases, dans des petits tiroirs, hein, dans des petits tarifs. Bien entendu, c'est extrêmement compliqué et il faut être vigilant à ce qu'une recherche d'un juste coût, c'est normal, de la médecine, ne se fasse pas au détriment des dimensions du soin et du prendre soin qui ne rentreraient pas dans des petites cases de financement.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons juste après. Nous reprenons notre entretien avec Godefroy Hirsch, qui est médecin et qui s'occupe des soins palliatifs. Et nous en étions sur cette question du déroulé, si on veut, des soins palliatifs, donc la douleur, la souffrance, soutenir les proches. Et nous en étions à l'idée suivant laquelle, effectivement, sans doute, grâce aux soins palliatifs, on pourrait retrouver cet accueil de la vulnérabilité dont vous parliez, cette hospitalité de l'autre. Mais la question que je me pose, elle est de dire, mais finalement, pourquoi faire tout ça? Pourquoi maintenir en vie les gens? Pourquoi les tenir en vie comme ça jusqu'au bout? Est-ce qu'on est dans la survie ou est-ce qu'on est dans la vie en plus? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de proposer des solutions un peu radicales, de type de celle de l'euthanasie, d'en finir une bonne fois pour toutes si les gens ne veulent pas aller plus loin? Donc est-ce que ce temps-là, qui est le vôtre, que vous accompagnez, ce temps du moment où on sait que la mort est imminente, elle n'est pas encore là, mais elle est pour bientôt. Est-ce que ce temps-là est nécessaire? Est-ce que c'est un temps de survie ou est-ce que c'est un temps un supplément de vie, une vie en plus, une intensité de vie supplémentaire que vous constatez, vous, par votre expérience?
Ce temps-là, il peut tout être. Il peut tout être. Il peut être un temps difficile, un temps de non-sens absolu, un temps de révolte. Actuellement, nous accompagnons à domicile une femme jeune d'une soixantaine d'années qui, avec trois filles, avec qui ça se passe très mal et qui est dans la pleine révolte de ce qui lui arrive, d'être malade. Elle n'arrive pas à prendre ses médicaments antalgiques tellement elle est dans la révolte. Ben, ça peut être un temps de révolte, mais ça peut être aussi, à partir du moment où l'on est un peu mieux soulagé de ses douleurs, à partir du moment où on sent qu'il y a de l'attention auprès de soi, ça peut être un temps qui peut être un temps occupé, ça peut être un temps qui peut être un temps de vie, quelle que soit la forme dont va prendre la vie à ce moment-là. En règle générale, ce qui compte beaucoup pour les autres, pour les personnes malades, c'est cette dimension de pouvoir encore être un peu dans la relation, ou encore être un peu dans la vie, même si c'est parfois de manière très, très, très ambivalente. Et moi, je comprends et j'entends des malades, des personnes malades qui nous disent « Mais j'en ai marre, docteur. J'en ai marre, vous savez, c'est difficile ce que je vis. Pourquoi ?» Qui posent vraiment des questions de cet ordre. Mais quand on est à pas justement vouloir apporter une réponse qui viendrait tomber, de dire « Mais non, tout va bien. » Ou de dire « Vous en avez marre ?»« Ah ben oui, ce serait plus simple de quitter la vie. » Mais quand on est plutôt à accueillir ce qui se dit, mais très souvent, on s'aperçoit que les personnes continuent à cheminer. C'est-à-dire que l'expérience de la vie, elle peut aussi continuer à se mettre en œuvre, pourrait-on dire, presque jusqu'au bout. L'important, bien entendu, l'important, et c'est toute la dimension des soins palliatifs, c'est que ceci se fasse dans une dimension de qualité de vie qui soit préservée. Et c'est l'objectif fondamental des soins palliatifs. Mais maintenant, comment la personne malade va continuer à avancer avec ses moments de bien, ses moments de bon pour elle, ses moments de révolte, ses moments de doute, ses moments d'incertitude, ses moments de tristesse? Ben, vous savez, quand on groupe tout ça, c'est ça qui fait la vie. C'est ça qui fait la vie. Et nous n'essayons jamais de prolonger, de maintenir, d'être dans quelque chose qui serait un artificiel de ça, mais bien peut-être de soutenir ce qui est la vie à ce moment-là, qui est souvent extrêmement ambigu, mélangé, mais qui est parfois aussi extrêmement fort. Vous avez des possibilités de relation à l'autre, de pouvoir, par exemple, et en dehors même d'images caricaturales, mais pouvoir délivrer des messages qui vont pouvoir faire sens pour les autres, de pouvoir soi-même se remettre dans un récit, dans une histoire de vie qui permettra à la fois de faire sens pour soi, mais à la fois, par exemple, aussi pour ses enfants, voire même pour les soignants. Les capacités à pouvoir faire quelque chose, des potentialités à pouvoir notamment travailler sur ce qui fait sens de la vie, elles sont là, et je peux vous dire dans mon expérience, elles sont là vraiment jusqu'au bout de la vie.
Quand une personne donc en face de vous vous dit « j'en ai marre, j'en peux plus, je veux mourir, aidez-moi à mourir, trop c'est trop ». On pense souvent, on dit souvent parfois que les soins palliatifs sont là pour ne pas entendre cette demande-là. Ne pas faire la sourde oreille à cette demande du ras-le-bol de vie, de cette vie-là, de cette vie qui continue, de cette survie qui m'est donnée, mais qui n'est pas à la hauteur de la qualité de vie que je veux, je voudrais. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que votre expérience vous fait réagir face à ces demandes pressantes ou peut-être passagère, mais cette demande de « Écoutez, docteur, vous êtes gentil, vous avez tous les moyens, vous savez ce qu'il faut faire, dites-moi, faites ce qu'il faut pour que ça s'arrête, j'en ai marre, maintenant, il faut que ça se termine. »
Alors là, je pense que ce que vous amenez, les soins palliatifs ne peuvent pas entendre ça, là, on est complètement dans la représentation. C'est-à-dire que nous constatons tous qu'actuellement, autour de la problématique de la fin de vie, les questions, notamment celles qui sont relayées par le champ médiatique, viennent se focaliser sur ce qui serait de l'euthanasie. En pratique, et heureusement, que tous les acteurs de soins palliatifs, quels qu'ils sont en capacité non seulement d'entendre une demande autour du mourir, mais d'accompagner, d'être présent auprès de l'autre. La première dimension importante, quand quelqu'un vous dit « j'en ai marre », c'est bien entendu de ne pas fermer la porte. Là, on serait dans des positions dogmatiques, partisanes. Ce n'est pas du tout ça, les soins palliatifs. Au contraire, c'est l'image qu'on voudrait renvoyer des soins palliatifs qui seraient dans ces dimensions très dogmatiques. Non, les soins palliatifs sont d'abord à l'écoute de la personne. Pour reprendre votre exemple, quand quelqu'un vous dit « vous savez, j'en ai marre », moi, la première question que je lui pose, mais ouais, c'est vraiment insupportable ce que vous vivez, ou qu'est-ce qui fait que c'est insupportable ce que vous vivez? C'est-à-dire que, à travers ça, j'essaie de lui redonner la parole, de lui permettre qu'elle me dise d'abord qu'est-ce qui est insupportable pour elle. Et déjà là, quand vous ouvrez cette porte, vous allez voir que les personnes l'occupent de manière très différente. Ils vont par exemple vous dire « mais ce qui est insupportable, alors que vous n'étiez pas du tout dans une demande d'euthanasie, très basique, faites-moi mourir, je supporte plus, j'en peux plus », mais ils vont vous dire par exemple « j'ai trop mal ». Nous savons très bien, des études notamment nord-américaines qui l'ont montré, qu'une douleur non calmée est une cause majeure de demande d'euthanasie. Un autre exemple très fréquent, c'est de dire « non mais, c'est pas possible, je deviens un tel poids pour ma famille ». Nous savons très bien qu'avoir l'impression d'être un poids pour sa famille, quand on n'a pas d'ouverture par rapport à ça, de manière d'essayer de proposer quelque chose, ça peut être le lit d'une demande d'euthanasie. Donc l'important, il n'est pas d'adopter une posture par rapport à quelqu'un qui demande l'euthanasie ou qui exprime quelque chose autour du mourir. Au contraire, il est important d'aller auprès de lui et de voir de quoi est faite cette demande, de quoi est fait son mal-être. Alors, il arrive à mettre des mots où il n'arrive pas, mais on peut aussi s'inscrire dans du temps avec lui. La relation avec une personne, c'est une relation de confiance. Il est très important de ne jamais fermer la relation de confiance. Et en pratique, il faut quand même le dire, nous avons tous les jours quasiment des personnes qui nous disent « mais docteur, j'en peux plus ». Mais quand vous développez à la fois une attention soignante dans toutes les dimensions du soin, quand vous développez une attention d'écoute, de se mettre véritablement à l'écoute de ce que vit l'autre, pas dans une petite écoute comme ça, dans un vrai accueil de la souffrance qui est parfois des souffrances, des dimensions de souffrance existentielles, quand vous vous mettez dans cette dimension-là, qu'est-ce que vous apercevez? Eh bien que cette demande autour du mourir, elle s'étiole. Quand vous arrivez à donner des éléments de confort, de repère de la personne, il faut le dire, la demande autour du mourir, elle s'étiole. Pourquoi? Parce qu'on est tous partagés par des mouvements très contradictoires quand on est vulnérable. On a à la fois envie d'en finir et on a envie de continuer. Et que de vouloir répondre de manière très pragmatique, vous voulez en finir? Ah très bien, ben écoutez, on va mettre en place une petite procédure, patati patata. On est loin à ce moment-là de la vraie problématique du patient, de la personne, qui est souvent de comment continuer à avancer, à trouver son chemin, dans quelque chose qui est parfois bien difficile, mais comment continuer à avancer? Et tout le sens des soins palliatifs et de l'accompagnement, il est autour de ça.
Donc, ce qui veut dire que pour vous, la demande d'euthanasie, si on le dit comme ça, est une bonne question, mais peut-être une question qui doit être gérée ou qui doit être envisagée dans la plénitude de ce qu'elle révèle et qui n'est pas nécessairement une bonne solution. Est-ce que vous avez un exemple ou est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier que vous avez rencontré récemment et qui était dans cette demande insistante là, et comment les choses se sont d'une façon ou d'une autre passées?
La dernière personne qui m'ait parlé de ça, c'est il n'y a pas très longtemps, il y a 3 jours, une personne que j'ai rencontrée à domicile, une dame de 70 ans chez qui on a découvert assez récemment un cancer déjà très avancé, métastasé, et qui a eu sur un laps de temps très très court l'annonce de la maladie, l'annonce du traitement, l'annonce du fait que peut-être on n'arriverait pas à la guérir, le fait qu'elle pouvait plus se déplacer toute seule chez elle maintenant, plus faire son activité d'habitude qui était de sortir et d'aller par exemple à un club de rencontre avec ses amis. Ça représentait tellement ça, tellement de choc, que sur son fauteuil, dans son salon, elle m'a dit « Mais tout ça en effet, ça n'a pas de sens moi, je sens que c'est complètement mal parti pour moi. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de mourir maintenant ?» Là où c'est important, c'est que face à une question autour de ça, c'est de dire il n'y a pas de réponse binaire à avoir, il n'y a pas de réponse dogmatique, il y a juste à essayer d'accompagner l'autre. Et cette dame, nous l'avons rencontrée plusieurs fois à domicile, de quoi on s'est aperçu ? D'abord que... elle avait beaucoup plus mal qu'elle ne le disait. Elle disait « j'ai pas mal ». Mais derrière ce « j'ai pas mal », en fait, c'était quoi ? C'était une crainte pour elle d'être hospitalisée. Elle avait peur que si elle dise « j'ai mal », son médecin traitant, qui était relativement démuni par rapport au traitement de la douleur, l'hospitalise. Donc elle disait « j'ai pas mal ». Et quand on analysait ce qui passait, là, avec un œil de médecin, d'infirmière, on avait des éléments qui nous disaient « elle a mal, cette dame ». Donc le premier des éléments a été de compléter, parce qu'elle avait déjà des traitements antidouleurs, il a fallu compléter avec des dispositifs spécifiques, prendre en charge cette douleur. Et déjà, cette espèce d'inconfort de base latent disparaissait et enlevait déjà un peu de pression. Et puis après, cette dame, au fur et à mesure des rencontres, elle a pu nous dire sur un mot très, très, très tenu, très, tout en pudeur, comment cette maladie était difficile pour elle, là, du fait qu'une de ses filles venait d'avoir un petit enfant. C'était à la fois une joie immense, mais ça lui était intolérable de penser qu'elle n'allait pas pouvoir être là auprès de ce petit enfant, parce que bon, c'était dans une histoire de famille compliquée, avec des histoires d'absence, de manque, et que ça venait complètement reparler du manque qu'elle avait vécu, elle. Et c'était tellement, elle était tellement submergée par ça, tellement submergée par... qu'elle ne voyait pas d'autre solution que de dire « la seule manière, c'est d'y mettre fin maintenant ». Et le fait d'avoir pu lui permettre, dans ce qu'était son récit de vie, sur un mode vraiment très, très modeste, ben ça lui a permis aussi de pouvoir se décaler, de pouvoir dire « oui, peut-être, c'est elle qui le dit, c'est pas nous. Oui, je ne vais pas être auprès de mon petit-fils, comme en fait l'était son père, qui n'a pas pu être auprès d'elle. Oui, je ne vais pas être auprès de mon petit-fils. Mais je suis là déjà, auprès de lui, dans ce moment-là. Je peux aussi lui faire passer certaines choses. Je peux peut-être m'inscrire dans une continuité au travers lui. » Et petit à petit, en fait, ce temps, qui lui semblait un temps insoutenable, invivable, c'est elle, à partir de l'accueil qu'on lui a fait, qui a permis d'élaborer que ce puisse être un temps qui fasse sens, à la fois pour elle, à la fois pour ce petit-fils et à la fois pour sa fille. Et si nous avions été dans une réponse d'une mise en œuvre, je vous avais envie de mourir, ah ben oui, oui, on comprend, c'est intolérable ce que vous vivez, on met en œuvre quelque chose, probablement, je pense, qu'on n'aurait pas permis à cette femme de continuer à investir le champ de la vie et continuer à faire que son expérience de vie ait du sens à la fois pour elle et pour ses proches.
Et vous voulez dire que ce cas-là dont vous nous parlez n'est pas un cas isolé. Donc c'est souvent comme cela, c'est-à-dire souvent une demande qui est faite et qui révèle des douleurs, des souffrances profondes qui, si ces douleurs et ces souffrances sont explicitées, sont mises en mots, en paroles, à ce moment-là, la demande elle-même, avec les hauts et les bas que cela suppose, s'atténue, disparaît progressivement. C'est ça que vous nous dites ?
Oui, parce que quand on est dans l'impasse, quand on n'a plus d'espoir, quand on est dans le désespoir, quand on est dans la sensation d'abandon, quand on s'enferme entre quatre murs et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de porte, oui, à ces moments-là, très souvent, très souvent, pas obligatoirement, mais souvent, il peut y avoir des demandes autour du mourir, qui ne sont pas obligatoirement d'ailleurs des demandes d'euthanasie, qui sont du « le plus souvent d'ailleurs, qui ne sont pas des demandes d'euthanasie, mais qui sont du « j'en ai marre ». Parce que les patients, certains patients atteints de maladies graves ou en fin de vie, peuvent être dans des situations vraiment difficile, notamment d'avoir l'impression d'être abandonné et de ne plus avoir de repères. Essayez d'élaborer avec eux. Alors, dans un champ, on l'a vu, qui peut être en effet autour du corps, somatique, des traitements, mais dans un champ aussi qui va être autour de la relation, et des fois dans un champ qui va être simplement d'accompagnement du questionnement. Reconnaissons que parfois, sur les questions existentielles, est-ce que tout ça a du sens ? Qui peut amener une réponse ? Mais le but là n'est pas d'amener une réponse, mais bien de dire « je continue à être là » alors que vous posez cette question auquel je n'ai pas de réponse. Ben, quand on est là dans cette dimension d'essayer d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres, on s'aperçoit que la capacité qu'ont généralement les individus à pouvoir continuer à bouger, des fois bouger seulement psychiquement, s'ils sont dans un corps qui ne peut plus bouger, est totalement impressionnante. Et c'est en ce sens-là où ce sont des personnes vivantes jusqu'au bout. C'est-à-dire, à ce moment-là, ils ont aussi, par exemple, des désirs qui remontent. Des souhaits, des désirs, c'est-à-dire des choses extrêmement fortes en termes d'envie de vie, de pulsion de vie, qui vont des fois pas être réalisables ou pas réalisées, mais qui remontent comme ça, comme autant de pistes possibles, autant d'ouvertures sur un possible, même si le possible continue à rester incertain, même si au bout du possible, la mort se profile ou se dessine.
Donc nous avons vu avec vous tous les éléments de cette approche des soins palliatifs, donc la douleur, la souffrance, le fait de soutenir les proches et cette remise en évidence de cette hospitalité de celui qui est en train effectivement de mourir. Je vous remercie beaucoup, Godefroy Hirsch, d'être venu comme ça nous voir, nous donner des éléments d'explication sur votre pratique, sur l'expertise qui est la vôtre relative aux soins palliatifs et de nous avoir donné votre éclairage sur tous ces éléments qui sont toujours sensibles et qui réapparaissent régulièrement dans les débats et qui sont ô combien indispensables pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont confrontés à ces situations-là. Merci beaucoup.